Alors, on a une autre question très précise. Hein, qui touche les loyers, le loyer d'une location qui a été achetée, enfin un immeuble acheté en commun, et en cas de séparation, on continue à toucher les loyers, comment ça se passe ?
Effectivement, c'est le principe que ma consoeur vous évoquait tout à l'heure en ce qui concerne l'indivision en cas d'achat d'un appartement. Donc, les deux concubins qui ont vécu ensemble et qui ont acheté un appartement sont copropriétaires.
Oui.
Si cet appartement, ils souhaitent le garder en indivision et le louer, eh bien, normalement, il y a un accord qui peut intervenir. Ça peut être un partage par moitié du loyer tout bêtement. Et dans ces cas-là, on peut demander au locataire de faire un virement équitable tous les mois, mais ça peut être aussi un contrat d'indivision qui se crée où là on détermine que par exemple l'un qui est plus à même de s'occuper des papiers va gérer cette location, ce qui permet effectivement de lui laisser le droit de percevoir les loyers, mais en contrepartie il va gérer les impôts fonciers, il va gérer les éventuels
Il va pouvoir régler l'emprunt également.
S'il y a un emprunt. Et éventuellement, bien sûr, gérer les problèmes en cas de nécessité de travaux demandés par les locataires. Et dans ces cas-là, il doit tenir un compte pour pouvoir le présenter à l'autre copropriétaire si celui-ci le demande. Et notamment, si celui-ci demande à s'il y a un bénéfice à cette location, il puisse le récupérer régulièrement ou en fin d'indivision si, au bout d'un moment, cette indivision n'est plus satisfaisante pour l'un des deux.
Alors là, pareil, s'il y a accord entre les parties, personne ne va rien y voir. Dès lors qu'il y a un désaccord, eh bien, nous saisissons le tribunal. Et effectivement, le tribunal dira qui doit payer les loyers ou alors... effectivement décidera du partage des loyers en indiquant que celui qui a perçu les loyers doit restituer à l'autre une partie des loyers.
Voilà. Eh bien, on va se retrouver dans quelques instants pour d'autres questions. Eh bien, on reprend notre émission avec les avocats de la Haute-Loire dans les studios de Radio Craponne, Maître Chamar Kabibel, Maître Bonnet. Alors, Maître Bonnet, on a parlé bien sûr des biens matériels. Alors, là où il y a beaucoup de problèmes, certainement on en reparlera, c'est quand il y a des enfants, bien évidemment. Alors, une question auditeur, là, qui décide de la garde des enfants en cas de séparation, donc de deux personnes non mariées ?
Eh bien, c'est toujours pareil. La justice n'intervient que si se présente une difficulté.
C'est-à-dire que ça peut se régler à l'amiable, pardon de vous couper, si on décide, je ne sais pas, on a un enfant de 7-8 ans, moi je ne sais pas, et on dit... on s'arrange, on dit rien à personne, tu vas aller avec ta maman ou de temps en temps tu viendras. On peut le faire,
tout
ça.
Tout à fait. Si le couple conjugal se sépare, le couple parental va exister et perdurer.
Oui,
et effectivement, l'intérêt de chacun et surtout l'intérêt de l'enfant, c'est que les parents puissent s'entendre et dans l'intérêt de l'enfant puissent organiser non pas l'enfant qui suit la vie des parents, mais les parents qui essayent de s'adapter quand même au meilleur intérêt de l'enfant. Alors, soit les personnes, effectivement, s'entendent et elles peuvent, après la séparation, organiser elles-mêmes la vie. Il faut quand même préciser qu'il faut d'abord déterminer qui a l'autorité parentale. Mmh. En principe, lorsque les gens ont vécu en concubinage et qu'ils ont eu des enfants, les deux parents les ont reconnus. Donc, l'autorité parentale est conjointe de façon automatique. Il y a des règles un petit peu plus complexes qui s'intègrent en cas de reconnaissance tardive ou subséquente, mais si on prend le cas général, c'est-à-dire une reconnaissance, donc les deux parents ont une autorité parentale conjointe. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits vis-à-vis de l'enfant. Donc soit ils s'organisent, j'allais dire, d'un commun accord ils peuvent, s'ils sont toujours d'accord, et s'ils préfèrent que les choses soient, j'allais dire, un peu plus officielles, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales par une requête conjointe, où ils déterminent leurs vœux vis-à-vis de l'enfant et l'organisation de la vie de l'enfant après la séparation. Et le juge aux affaires familiales qui est saisi, lui, va examiner, confirmer s'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant le souhait des parents, et va rendre un jugement qui ne fera qu'homologuer l'accord des parents. En cas de désaccord, ce qui est hélas le cas, il faut qu'il y en ait un des deux qui prenne l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales par l'intermédiaire soit d'une déclaration au greffe, soit par l'intermédiaire d'un avocat qui, effectivement, demandera au juge de déterminer les droits parentaux de chacun. S'il y a organisation d'une garde alternée, en principe c'est une semaine chacun, ça n'est pas une obligation, mais ça peut être aussi un droit de résidence qui est fixé chez l'un des parents et un droit de visite et d'hébergement au profit de l'autre, dont les conditions sont fixées soit d'un commun accord, soit sont déterminées par le juge aux affaires familiales en fonction des éléments effectivement qu'il a sous les yeux, l'organisation de la vie professionnelle, de l'éloignement géographique bien sûr, de la nouvelle vie des parents, et effectivement de la situation, on va dire, personnelle de chacun des parents, parce qu'il y a des parents qui peuvent être en difficulté, soit par des questions de maladie.
Oui, voilà, j'allais le dire, au niveau financier, je veux dire, ça peut être...
Sur les financements, pareil, c'est la pension alimentaire. S'il y a une garde alternée, en principe, il n'y a pas de pension alimentaire, sauf si l'un des deux parents a vraiment des revenus très faible et qu'il doit bénéficier d'une aide complémentaire de la part de l'autre, mais ça c'est le juge qui le décide, ou alors effectivement ça peut être une pension alimentaire pour celui qui a la résidence habituelle, celui qui garde principalement l'enfant. Et soit il y a un accord, soit effectivement le juge détermine en fonction des revenus et des charges de chacun, sachant que la pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant est une priorité et doit passer avant, on va dire, les dépenses superflues de chacun.
Voilà. Je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais il est vrai que c'est toujours préférable de saisir le juge aux affaires familiales, même en cas d'accord. Pourquoi ? Oui. Parce que même en cas d'accord, c'est vrai que le juge homologuera et rendra un jugement. Et ce jugement, eh bien, il va régir les relations entre les époux ou concubins concernant la vie de l'enfant. Et dès lors qu'une pension alimentaire n'est pas payée, par exemple, avec ce jugement, on peut recouvrer cette pension alimentaire par huissier. Idem pour le droit de visite et d'hébergement. Il y a un jugement. Le jugement prévoit un cadre avec un droit de visite et d'hébergement très précis, et c'est vrai qu'il est préférable, ça évite effectivement que à tout moment le père ou la mère qui bénéficie du droit de visite et d'hébergement se rende n'importe quand chercher l'enfant.
Et puis ils peuvent s'entendre sur le moment, il peut peut-être que 6 mois après ça va plus, il vaut mieux avoir un cadre finalement.
Voilà, tout à fait. Étant précisé que le jugement prévoit un droit de visite et d'hébergement, c'est un cadre, c'est-à-dire que si les personnes s'entendent, bien évidemment, elles ne sont pas tenues de s'en tenir à ce cadre, on se réfère au jugement dès lors qu'il y a un problème et on se réfère au cadre qui est prévu par le magistrat.
On va rester un peu plus sur ce sujet parce que c'est vrai que dès qu'il y a des enfants, c'est un peu plus grave. Vous avez beaucoup à plaider, beaucoup d'affaires de séparation et d'enfants. Est-ce que l'enfant a quelque chose à dire, lui, de son côté, Maître Bonnet ?
Effectivement, c'est le principe de la séparation et des conséquences sur les enfants constitue une grosse partie des dossiers qui sont écoutés par le juge aux affaires familiales et présentés par les avocats. Alors l'enfant doit être le centre de ce débat, puisque effectivement dans les règles du Code civil, il est dit que le juge doit tenir compte uniquement de l'intérêt de l'enfant, et c'est en fonction de cet intérêt qu'il va déterminer les droits parentaux et non en fonction des demandes de chacun, et en tout cas parfois des litiges qui peuvent perdurer au niveau de la séparation du couple, parce qu'effectivement il y a souvent beaucoup de parasites qui viennent générer la dispute sur l'enfant.
Et étant précisé, effectivement, je rebondis sur ce que vous dit Maître Bonnet, dans toute procédure qui le concerne, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Alors, je ne sais pas pourquoi, à tort, moi j'ai beaucoup de clients qui me donnent un âge, qui me disent qu'à partir de 13 ans, l'enfant peut être entendu. Oui. Non, il n'y a pas d'âge. Le Code civil nous dit bien un enfant capable de discernement. Il est évident qu'un enfant de 2 ans ne peut pas donner son avis sur son lieu de résidence. Alors, un enfant va être entendu par le magistrat, un enfant qui sera donc capable de discernement, mais ça ne veut pas dire que forcément le magistrat va suivre la parole de l'enfant. Il va prendre en compte un certain nombre paramètres et ne décider, encore une fois, comme vous l'a dit Maître Bonnet, qu'en fonction de l'intérêt de l'enfant.
On voulait peut-être parler un peu du divorce aussi, parce que ça concerne tout ce qu'on vient de dire, ça concerne le PACS, le concubinage aussi, hein. Alors vraiment, en cas de mariage, il y a des différences, qu'est-ce qui se passe? Il y a le divorce.
Attendez, excusez-moi, je voudrais juste faire un petit ajout sur le problème de l'enfant. Effectivement, il est aussi exigé aujourd'hui dans les règles du Code civil que lorsque une décision va être prise engageant le destin de l'enfant, il doit être informé par ses parents. Alors effectivement, c'est aussi une question d'âge, qu'il a la possibilité de demander à participer à cette procédure, non pas directement, mais par l'intermédiaire d'un avocat de l'enfant, auprès de qui il pourra donner ses difficultés ou son avis, sachant que l'avocat de l'enfant ne donne un avis auprès du juge, et notamment le juge peut décider, au vu de ce que lui aura expliqué l'avocat de l'enfant qui aura été désigné de façon totalement objective par le bâtonnier et qui n'est absolument payé ni par l'un ni l'autre,
il est indépendant,
des parents,
complètement.
Effectivement, qui peut décider d'entendre l'enfant s'il l'estime nécessaire, à partir du moment où il estime que l'âge est suffisant pour qu'il donne un avis. Il est vrai que quand un enfant de 13, 14, 15, 16 ans dit qu'il ne veut plus voir l'autre parent, ça pèse dans la décision, mais ça ne reste qu'un élément pour le juge aux affaires familiales.
Pour un détail purement pratique, nous nous sommes réunis dans un formant un groupe d'avocats de l'enfant. Nous sommes donc deux permanences.
Oui.
Tout avocat n'est pas avocat de l'enfant.
C'est une sorte de spécialité, vous l'avez choisi.
Alors, spécialité, nous faisons des formations. Oui. Parce que c'est vrai que c'est pas simple de recevoir un enfant et d'arriver, on n'est pas psychologue, savoir si vraiment c'est sa véritable parole ou si c'est celle de ses parents. Et concrètement, il suffit d'écrire effectivement au greffe du juge aux affaires familiales pour que un avocat soit désigné. Donc nous faisons partie effectivement d'un groupe.
Voilà.
Et l'avocat qui sera désigné sera bien évidemment ni l'avocat du père, ni l'avocat de la mère, et sera un avocat, je dirais, neutre, qui ne portera que la parole de l'enfant. À la suite de l'audience, le magistrat peut décider d'entendre l'enfant et de l'auditionner. Et nous, avocats, nous assistons l'enfant lors de son audition devant le juge.
Et sa parole n'est pas forcément donnée aux parents. Si l'enfant ne souhaite pas que sa parole soit transmise et officialisée auprès des parents, le juge le conservera, j'allais dire, secret, et ça ne sera un élément de sa décision, sans qu'il soit effectivement confronté éventuellement à la vindicte d'un parent qui ne sera pas satisfait de ce que l'enfant aura dit à son égard.
Voilà, parce qu'il peut y avoir des pressions aussi de parents, que vous le voyez souvent,
Tout à fait, c'est pas simple quand on reçoit un enfant d'arriver à décrypter, parce qu'encore une fois on n'est pas psychologue, d'arriver à décrypter si c'est bien ce que souhaite véritablement l'enfant, ou si c'est ce que souhaite un parent pour lui. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de raccompagner l'enfant. Parce que quand on reçoit l'enfant, effectivement, on le reçoit tout seul dans notre cabinet. On ne le reçoit pas accompagné. Ça m'est arrivé plusieurs fois en fermant la porte de mon cabinet d'entendre la maman ou le papa qui accompagnait en disant tu as bien dit à l'avocat ce que je t'avais dit de dire.
Et voilà, c'est pas
là,
simple,
il faut être,
certainement.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Et alors le divorce, vous en avez toujours beaucoup, de plus en plus. C'est toujours aussi dur.
Oui, alors il faut savoir que maintenant nous avons également des divorces concernant des personnes de même sexe. Puisque le mariage pour tous, comme on le sait, est passé. Alors le divorce, très rapidement et de manière très générale, deux grandes catégories de divorce en France, le divorce par consentement mutuel et le divorce que je dirais classique. Divorce par consentement mutuel, c'est un divorce qui effectivement est prononcé à la demande de deux époux. C'est un divorce qui, à mon sens, a deux avantages énormes. Le premier avantage, c'est la rapidité, puisqu'on peut être très très rapidement divorcé. Bien entendu, le ministère d'avocat est obligatoire. Deuxième avantage, et pas des moindres, nous n'abordons pas les torts du divorce. Les gens qui viennent nous voir, effectivement, dans le cadre de ce divorce, on n'aborde pas les torts, et on ne les aborde pas également devant le juge. Et on a un jugement où rien n'est noté sur les torts. Et il faut savoir que le jugement de divorce, on le demande beaucoup, et c'est pas très agréable de voir effectivement étaler sa vie.
On n'est pas obligé de se justifier, quoi.
Tout à fait. Alors, il faut savoir également qu'un avocat peut assister les deux époux dans le cadre du consentement mutuel, où il peut y avoir un avocat pour chacun des époux. Donc les deux avantages, ce sont ceux que je viens d'énumérer. Inconvénient, c'est qu'il faut être d'accord sur tout, entièrement tout, c'est-à-dire D'accord d'abord sur le principe même du divorce, mais d'accord également sur les modalités. Alors toutes les modalités, aussi bien les modalités qui vont concerner les deux époux, hein, ça peut être des choses très importantes comme la liquidation de la communauté, ou des choses qui le sont un peu moins, comme par exemple est-ce que l'épouse va garder son nom de femme mariée ou pas. Et puis ça peut être des choses très importantes s'agissant effectivement des enfants, parce que là pareil, on organise toutes les relations s'agissant des enfants. Alors on arrive avec une convention, on la fait homologuer par le magistrat qui, s'il est d'accord, l'homologue et rend le jugement. Donc ça, c'est une procédure qui va relativement vite. Dès lors qu'un époux n'est pas d'accord pour divorcer, ou est d'accord pour divorcer mais n'est pas d'accord avec les modalités du divorce, on bascule sur la procédure de divorce classique, qui est, je dirais, beaucoup plus lourde en termes de procédure, puisqu'on est obligé de déposer une requête. Voilà. Dans cette requête, on demande au juge de statuer sur des mesures provisoires, puisque comme la procédure de divorce est longue, eh bien, il faut organiser la séparation des époux pendant cette procédure. On est convoqué à une audience qui s'appelle l'audience sur tentative de conciliation, qui n'a que le nom de tentative de conciliation, parce que ni le juge ni nous, nous sommes là effectivement pour concilier les époux. Nous sommes convoqués à cette audience. À la suite de cette audience, le juge va rendre une ordonnance après tentative de conciliation, dans laquelle il va trancher les points qui posent problème et homologuer les points sur lesquels les époux se sont mis d'accord. Et nous attaquons après un deuxième stade de la procédure. Nous faisons délivrer par huissier une assignation. Et à la fin de la procédure, qui est une procédure écrite où l'on échange sur le principe même du divorce, mais sur les modalités accessoires au divorce, un jugement de divorce est rendu. Autant vous dire que cette deuxième procédure est beaucoup plus longue et peut durer effectivement pour s'agissant des époux.
Voilà, et toujours autant de cas, d'ailleurs vous êtes souvent amené à plaider. Alors les avocats, là, il faut qu'ils prennent, bien sûr, ils défendent leurs clients ou leurs clientes.
Tout à fait, c'est le principe même de l'avocat.
Et vous pouvez vous retrouver toutes les deux, on en parlait tout à l'heure, on disait sous forme d'humour, mais c'est pas de l'humour, vous pouvez vous retrouver toutes les deux, enfin, à plaider l'une contre l'autre.
Ah, on se retrouve très souvent, nous sommes 42 avocats en Haute-Loire, donc autant vous dire que nous retrouvons effectivement très souvent les uns contre les autres, mais ça n'empêche pas effectivement que ça fait partie de notre métier, que nous défendons corps et âme nos clients.
Le principe, c'est de ne pas, contrairement à ce que certains pourraient penser, de faire des petits arrangements entre amis en disant dans ce dossier tu me fais gagner, dans l'autre je te ferai.
Non mais ça c'est la télévision.
Voilà, effectivement, quand on a un dossier à défendre, on a un client à défendre, une situation qui peut être difficile, chacun donne son point de vue en respectant l'adversaire, mais le principe c'est de défendre son client avec les arguments qui sont nécessaires, que l'on se connaisse ou que l'on ne se connaisse pas. Le principe de notre métier, c'est effectivement lorsqu'on se trouve devant le juge, eh bien c'est que nous revêtons une robe qui marque notre séparation vis-à-vis de l'autre avocat, même si par ailleurs nécessairement nous avons des relations quotidiennes par le fait que nous nous rencontrons au tribunal tous les jours et que parfois il peut y avoir des amitiés qui se créent, mais jamais au détriment de l'intérêt de notre client.
Il fallait le dire. On se retrouve dans quelques instants avec nos avocats sur Radio Craponne.